Donc, les cafés de la ville existent depuis 2008. Ils sont organisés par le pôle ville de la maison de recherche des sciences de l'homme de Caen et par la maison de l'architecture de Basse-Normandie. Donc aujourd'hui, le titre « Éolien, autant nous importe le vent ». Et alors, nous avons le plaisir d'accueillir comme intervenants Corinne Bourdon et Jean-Paul Bourdon, qui sont membres de Laison Environnement, qui est une association de protection de l'environnement contre l'éolien industriel. Nous avons Monsieur Philippe Cotenceau, qui est chef du service énergie, construction, climat, air, développement durable de la DREAL. La DREAL, c'est la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Basse-Normandie. Nous avons Monsieur Didier Jeanne, qui est maire de Garcelles-Secqueville, dans le Calvados. Et nous avons Monsieur Daniel Mousset, qui est maire adjoint de Tourny, qui est une petite commune dans l'Eure, et qui est délégué aussi à la communauté de communes Hept-Vexin-Seine.
Alors je rappelle le petit texte de présentation. La production d'énergie grâce au vent prend une place grandissante dans les espaces ruraux ou maritimes, en déclenchant des réactions pour le moins opposées. Satisfaction de constater l'essor des énergies renouvelables. Consternation de voir se dégrader des paysages pollués par ces nouveaux moulins à vent. Que penser de cette installation classée pour la protection de l'environnement, Dixit Grenelle 2, qui est censée dans le même temps faire du bien à la planète? Le débat sur l'éolien est marqué par une forme de radicalité. La question mérite pourtant d'être posée en des termes moins manichéens, puisque les éoliennes investissent le territoire sous des tailles et des aspects très diversifiés, notamment à l'échelle résidentielle.
Donc je vais commencer par Monsieur Cotenceau. Quelles sont les orientations politiques actuelles concernant l'énergie éolienne? Quels sont les derniers textes de loi qui concernent le développement de l'énergie éolienne? Quels sont les critères pour accepter la construction d'un parc éolien, étude d'impact ou permis de construire ou autre? Et quelles sont les spécificités de la Basse-Normandie par rapport au développement de ce type d'énergie? Quels sont les projets en cours?
Donc par rapport à la première question qui m'a été posée, bon, ce qui est important de bien retenir, c'est qu'à l'issue des travaux du Grenelle de l'environnement que vous avez tous certainement suivis, l'État s'est engagé vers un mix énergétique. Vous avez bien entendu le débat sur le nucléaire, vous savez ce qu'il en est. Ceci étant, il y a une volonté tout à fait forte de la part de l'État de développer les énergies renouvelables. Alors les énergies renouvelables, évidemment, ça recouvre un ensemble de types de production, à savoir vous avez l'hydraulique, vous avez le photovoltaïque, vous avez l'hydrolien, vous avez l'éolien, et j'en oublie certainement. Puisque le sujet de ce soir est l'éolien, donc par rapport à cette volonté de développer les énergies renouvelables, très clairement, les objectifs qui sont fixés en termes de développement pour l'ensemble de l'éolien, c'est 25 000 mégawatts. 25 000 mégawatts qui se déclinent en 19 000 mégawatts pour l'éolien terrestre et 6 000 mégawatts pour l'éolien en mer. Alors, par rapport à cette volonté nationale, de façon à ce qu'il y ait une meilleure approche au niveau régional, tant par rapport au développement que par rapport à l'acceptation des projets, il est demandé, donc, dans chaque région, d'élaborer au travers d'un schéma régional climat, air, énergie, qui est en cours d'élaboration, donc d'élaborer un plan de développement de l'éolien terrestre au travers d'un volet éolien spécifique. Et actuellement, donc, les travaux sont en cours. En quoi consiste précisément ce travail? C'est au travers d'une analyse qui est faite du territoire, de définir quelles sont les potentialités de développement en prenant en compte les sensibilités environnementales. Par rapport à cela, donc, bien évidemment, il y a toute une analyse qui est faite sur le plan paysager, patrimonial, par rapport à d'autres contraintes qui peuvent être réglementaires, par exemple tout ce qui touche au radar, puisque vous imaginez bien que ça peut être un élément perturbant pour les radars. Et au travers de tout ce travail d'analyse qui est fait dans un cadre de gouvernance à 5, Esprit Grenelle, c'est-à-dire que vous avez qui participe à l'élaboration de ce schéma, non seulement l'État, bien évidemment, mais les collectivités. Je rappellerai que ce schéma est coélaboré par la région et l'État. Vous avez également donc les industriels, les syndicats, les associations de défense de l'environnement. Donc vous voyez bien que c'est un travail qui est fait dans l'esprit du Grenelle avec une gouvernance à 5. La finalité, c'est de définir donc des zones propices où pourra se développer l'éolien et ensuite de définir aussi des objectifs de développement par rapport aux capacités qu'offre le territoire. Donc ça, c'est la politique de développement de l'éolien terrestre vis-à-vis de l'éolien maritime. Vous avez dû suivre aussi l'actualité, puisque vous avez perçu le premier appel d'offres concernant l'éolien en mer, avec une première tranche de 3000 MW qui va se répartir sur 5 secteurs, et la basse Normandie a un secteur au large de Courcelles qui est offert pour une surface de 77 km² et une puissance de 500 MW. Voilà. Alors, je peux en parler pendant une heure, mais je crois que d'autres personnes veulent intervenir. Donc, je m'arrêterai là.
Merci. Donc, nous allons passer à Monsieur Jeanne, maire de Garcelles-Secqueville. Donc, je vous pose vos questions. La mise en service des 6 éoliennes situées sur le territoire de votre commune date de janvier 2009. Ayant été élu maire en mars 2008, avez-vous directement contribué à la procédure administrative d'installation de ces éoliennes ? À quelle occasion le potentiel éolien de votre commune a-t-il été l'objet d'une étude ? Et cette étude a-t-elle été réalisée à l'initiative de la commune ? L'éolienne n'est-elle qu'un outil au service de l'intérêt général bénéficiant à tous, entre parenthèses énergie renouvelable, etc. Ou au contraire, pensez-vous que votre commune tire un bénéfice particulier et direct de leur installation ? Et enfin, quelle attitude les habitants de votre commune ont-ils vis-à-vis des éoliennes ? Avez-vous l'occasion d'être souvent sollicité à leur sujet ?
Bien. Tout d'abord, concernant donc la première partie, c'est-à-dire la mise en place du projet. Vous avez donné des dates qui, en réalité, sont largement postérieures au démarrage. Nous étions à une période où, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, enfin, ce disait l'interlocuteur précédent, il n'y avait pas d'organisation du développement de l'éolien. C'est-à-dire que c'était les promoteurs, à cette époque, qui prospectaient et qui, après, aller demander aux communes leur avis sur leur intention d'installer un projet de développement éolien. Ensuite, suite à cet accord, ils visitaient les différents propriétaires du territoire communal, voire des territoires communaux étendus, et ensuite ils faisaient signer des conventions à ces propriétaires. Une fois qu'ils avaient la capacité en territoire de développer leur projet, à ce moment-là, ils venaient nous retrouver et ils amenaient donc leur dossier en mairie. Alors, votre question me fait sourire, parce que je disais tout à l'heure en notant les intervenants que j'allais être situé entre deux chaises. Au départ, quand on a eu donc la société Intervent qui venait nous solliciter, nous étions entièrement favorables au développement de l'éolien. On ne s'en est pas caché, on les a reçus. Par contre, on avait dès le départ spécifier les limites de ce développement. Nous nous appuyions à l'époque sur un document qui n'avait aucune valeur juridique, mais qui avait au moins le mérite d'exister, qui était une charte départementale qui avait été mise en place par le Conseil général, si je ne me trompe pas, donc qui définissait un petit peu les règles établies entre les différents sites. Et donc, on demandait à ce que cette charte soit respectée. Donc nous étions convenus d'un développement sur 7 éoliennes, et quand la société Intervent est venue dans une première fois déposer son projet, c'était plus 7, mais c'était 12 qu'il déposait. Voilà. Donc c'est pour dire un petit peu qu'on est dans une situation différente où il n'y avait pas vraiment de gestion, et nous, les communes, nous nous sommes sentis à cette époque tout seuls. Tout seuls à prendre les décisions. Donc, face à ça, il y a eu donc dépôt de ce projet de 12 éoliennes. Ensuite, par rapport à ce projet, 4 ont été refusés, donc le permis a été refusé pour des raisons liées à l'environnement. Notamment, il y avait un couloir emprunté par des chauves-souris, je crois, qu'il fallait préserver. Donc, quatre machines ont été supprimées. Donc, je dirais que nous, communes, je ne me sens pas l'initiateur du projet du tout. Absolument pas. Quand vous dites la procédure administrative, évidemment, nous, on a reçu les dossiers, mais en réalité, nous ne sommes qu'une simple boîte aux lettres à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on prend le dossier, on l'examine en réunion de conseil municipal, et puis voilà, quoi. Donc, déjà, dans un premier temps, il ne correspondait pas à ce qu'on avait négocié avec, avec la société. Ensuite, donc, l'étude, je dirais, de faisabilité du projet, nous, il n'y en a pas eu au niveau communal. C'est la société qui voulait développer son projet qui l'a réalisé. Et on nous a dit ensuite, de toute façon, que nous appartenions, nous étions situés, alors je reprends la formule, dans le triangle d'or du Calvados. C'est-à-dire, nous étions situés dans un endroit où, effectivement, il y a régulièrement du vent. Maintenant, elles existent, elles produisent. Depuis janvier 2010 en production pleine. Et donc, nous, de toute façon, elles sont là et on sait que ça va aller vers l'intérêt général. Mais quand même, derrière ça, comme on l'a vécu, c'est quand même l'intérêt économique que nous avons ressenti au départ. C'est-à-dire que ce sont des sociétés qui venaient là pour faire de l'argent. Il n'y a pas d'autre terme. Elle venait pour faire de l'argent. Le rachat, à cette époque, au moment où le projet a été développé, le rachat par EDF était à 9 fois le prix de ce qu'il était racheté, par exemple, aux centrales nucléaires. Donc c'était quand même quelque chose de c'était superbe, quoi, pour eux. Donc c'est surtout ça qu'on a ressenti. Alors, à l'époque, quand la société est venue développer son projet, on a mis en avant... C'est pour ça que je prends le dernier point que vous citiez. On a mis en avant, oui, pour votre commune, vous aurez une taxe professionnelle dedans. Ça, c'est toujours ce qu'on fait miroiter aux collectivités. Malheureusement, la taxe professionnelle a vécu. Et donc, elle a été transformée sous différentes choses. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous donner un chiffre. Donc, ça n'est pas le chiffre qui était annoncé, mais il n'est pas très, très loin quand même. Au départ, on nous disait, pour votre commune, vous aurez à peu près 12-13 000 de taxes professionnelles par machine. Hein, ce sont des engins de 2,5 MW. Alors, j'ai oublié de les décrire. Hein, ce sont des mâts de 90 mètres, des pales de 30 mètres. Donc, des engins conséquents. On ne pouvait pas faire plus haut parce que nous sommes dans le couloir d'entrée pour la piste de Carpiquet. Donc, voilà. Donc voilà, c'était à peu près ça. Et les documents que j'ai eus très récemment, parce que ça n'a pas été facile d'extraire cette taxe, et nous sommes donc à 59 000 euros pour 6 machines de 2,5 MW de taxes.
Par an.
Donc, nous, actuellement, nous sommes en communauté de communes, taxe professionnelle unique, ex-taxe professionnelle unique, c'est-à-dire que c'est la communauté de communes, mais au travers de la communauté de communes, la commune en profite. Voilà. Sinon, donc, la réaction des habitants a été assez vive, je ne vous le cache pas, c'était une opposition vraiment, vraiment forte, parce qu'effectivement, c'est un moulin, donc un moulin, on le met sur le point culminant, et donc, obligatoirement, dans le paysage, il y a un impact qui est très important. Ensuite, la charte, nous on s'appuyait sur la charte départementale. Cette charte départementale mentionnait un problème de co-visibilité des sites qu'il fallait régler, c'est-à-dire faire en sorte que d'un site à l'autre, on ne se voit pas. Et en réalité, nous sommes dans un triangle où vous avez trois sites dans un rayon de, je dirais, 1,5 km. Voilà, vous avez un site donc à Conteville, vous avez un site à Garcelles-Conteville, et vous avez un site sur maintenant la commune de juste à côté de Bourguébu, Frenouville. Voilà. Alors, les montages des sociétés qui viennent vous faire la promotion sont très bien faits. Les photos sont prises aux meilleurs endroits. Hein, donc voilà. Donc, ça, bon, finalement, les habitants ont fini par les accepter. Maintenant, je n'ai plus de visites à propos de cette implantation. La seule chose que je voudrais dire et que j'ai vérifié moi-même, parce que c'est souvent, ça fait l'objet d'études, c'est des on-dit, Je peux vous dire que quand les vents sont portants, on entend le bruit. Elles sont à 800 mètres des habitations et de chez moi. À 800 mètres des habitations, quand il y a du vent qui vient, qui passe par l'éolienne, qui vient vers vous, vous entendez le bruit des éoliennes, fenêtres fermées, double vitrage et tout, vous l'entendez la nuit. C'est-à-dire que c'est le bruit de la pale qui passe devant le mât. Au départ, je me suis dit, et je disais aux habitants, vous n'entendrez rien, car nous sommes dans le hameau de Secqueville où se situent les éoliennes, sont dans un endroit boisé. Je leur avais dit, vous n'entendrez rien. Le bruit des feuilles dans l'arbre, quand il y a du vent, va masquer. C'est faux, parce que c'est un bruit qui est répété, qui est lancinant, et que vous entendez, si vous êtes au repos chez vous, vous l'entendez forcément. Donc je voulais le dire, parce que le vent n'est pas toujours dans cette direction-là, mais ce n'est pas anodin non plus. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de nuisance. Voilà.
Merci.
Au niveau de la réglementation, parce que c'est important par rapport à ce qui a été dit, ce qu'il faut voir, c'est quel est l'esprit qui a présidé à la réglementation de l'éolien. Donc le législateur a articulé en fait le dispositif en deux temps. D'une part, vous avez une instruction qui porte sur les zones de développement de l'éolien et qui ont pour but, en fait, de favoriser le développement de l'éolien. C'est ce qui a guidé en premier l'esprit du législateur. Sachant que par rapport à ces zones de développement de l'éolien, elles sont créées uniquement par les collectivités ou les établissements publics collectifs. Donc là, on voit bien que dans la démarche, on a normalement une démarche volontaire qui vient de la part des collectivités, donc avec normalement un partage de la population, et un choix qui est fait en disant on accepte d'offrir une partie de notre territoire pour l'implantation d'éoliennes. Et c'est vrai, ce qu'a dit monsieur est tout à fait juste, c'est-à-dire que par rapport à cette réglementation, il y a eu un retard dans sa publication par rapport au développement industriel. C'est-à-dire que, en fait, les industriels ont largement anticipé cette réglementation et eux avaient déjà des projets, ce qui fait que les collectivités ont souvent pris des décisions de créer des zones de développement de l'éolien un petit peu sous la pression d'industriels qui, eux, avaient déjà des projets relativement avancés. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces zones de développement de l'éolien, normalement, ont uniquement pour but, on accepte d'offrir une partie de notre territoire pour ces zones de développement de l'éolien. Sachant que le fait de créer une telle zone offre un avantage qui permet donc à l'exploitant de bénéficier d'un tarif préférentiel. C'est-à-dire le prix de rachat de l'électricité est supérieur à celui communément pratiqué parce que, même s'il est vrai, parce que là, le prix de rachat est peut-être un peu trop élevé, mais la production à partir d'énergie éolienne n'est absolument pas compétitif avec les autres modes de production. Donc c'est pour ça qu'il y a un tarif d'achat plus élevé pour favoriser le développement de ce type d'énergie. Donc ça, c'est le premier dispositif qui a pour objectif d'inciter au développement. Après, vous avez un deuxième dispositif qui s'est renforcé récemment, qui vise à maîtriser l'impact environnemental des installations. Donc le deuxième dispositif s'adresse spécifiquement aux installations éoliennes. Donc aujourd'hui, il s'articule sur deux types de réglementations. Donc le code de l'urbanisme qui permet d'obtenir le permis de construire. Et depuis le début de cette année, vous avez la législation des installations classées qui vient se superposer à cette première réglementation qui permet de maîtriser l'impact environnemental de ce type d'installation et également la sécurité de ce type d'installation. Donc, en fait, chaque porteur de projet, chaque industriel sollicite une autorisation et est soumis donc à une instruction qui est complète, qui est conjointe pour le permis de construire et l'installation classée, sachant qu'il y a une enquête publique. Et ce n'est qu'à l'issue de cette procédure d'instruction, à partir du moment où la démonstration est faite que l'impact créé par les installations est acceptable, qu'une autorisation peut être donnée. Donc ça, c'est important. Alors vous avez posé aussi la question, quels étaient les critères qui permettent aujourd'hui de dire on accepte ou pas des installations éoliennes. Alors, les critères. Bon, d'une part, aujourd'hui, maintenant, ce qui est absolument souhaité, c'est des groupements d'éoliennes. C'est-à-dire que si vous avez des implantations qui sont inférieures à un nombre de 5 installations distantes au maximum de 1500 mètres, donc si vous n'avez pas ce nombre satisfait, vous ne pourrez pas obtenir d'autorisation. La volonté est quand même d'éviter le mitage du territoire, qu'on ait partout des éoliennes, c'est absolument pas souhaitable. Ensuite, les critères qui sont retenus, alors bien évidemment, ces critères sont, j'irais, démontrés, appuyés par le pétitionnaire au travers d'une étude d'impact qu'il doit fournir. C'est-à-dire que dans son étude d'impact, il doit analyser tous les impacts de ces installations et présenter les mesures qu'il prend pour maîtriser ces impacts si ceux-là ne sont pas acceptables. Et au niveau de la décision finale, qu'est-ce qui est pris en compte? C'est les impacts paysagers, impacts patrimoniaux et également donc des aspects de sécurité et aussi le fait qu'on ne se retrouve pas en contradiction avec des aspects réglementaires où là il y aurait une interdiction absolue d'implanter des éoliennes. Donc c'est au travers de ce travail d'analyse qu'est pris ensuite la décision. Vous avez posé aussi comme dernière question quels étaient un petit peu les atouts de la basse Normandie ou les caractéristiques. Alors au niveau des caractéristiques et atouts, ce qu'il faut savoir c'est que sur le plan éolien, la basse Normandie est d'une des régions les mieux dotées de France. C'est là où on a le plus fort potentiel éolien. Donc ça c'est tout à fait intéressant. Autre élément qui, lui, par contre, est plus gênant, c'est que c'est aussi une région où on a un habitat dispersé. Donc on voit aussi des problèmes que ça peut poser, et tout ça est pris en compte dans le schéma qu'on est en train d'élaborer. Par rapport donc à la situation actuelle du développement éolien, donc là, pour ne pas vous dire d'erreur, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a 11 zones de développement de l'éolien autorisées sur l'ensemble de la région. Il y en a 4 dans le Calvados. On a 8 dossiers de demande qui sont en cours d'instruction par rapport aux puissances installées, c'est-à-dire éoliennes raccordées, donc qui produisent de l'électricité. Pour l'ensemble de la région, on a 215 mégawatts. Pour le département du Calvados, on a 69 mâts qui représentent 140 MW. Dans la Manche, on a 40 mâts qui représentent 73 MW. Et dans l'Arne, pardon, on a 2 mâts et 2 MW. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, par rapport à la situation actuelle de la basse Normandie. Ce qu'on peut noter, c'est qu'aujourd'hui, le développement n'est pas très important comparé à d'autres régions. Voilà, vous savez tout.
Merci beaucoup.
Alors moi, je vais poser des questions à Daniel Mousset, donc maire adjoint de Tourny, qu'on a déjà présenté. Alors, à quelle occasion et pour quel projet avez-vous envisagé d'installer des éoliennes sur votre territoire ? Quels sont pour vous les avantages d'une telle installation pour le développement local, pour l'intérêt général? Pour quelles raisons ce projet n'a-t-il pas abouti? Et quelle est votre position par rapport aux installations d'énergie éolienne individuelle? Merci.
À Tourny, donc dans l'heure, sur le plateau du Vexin, On a été contacté en 2003 par une entreprise qui s'appelle Energiteam. Pas par hasard, évidemment, parce qu'il y a quand même là une plaine tout à fait favorable, une altitude de 150 mètres, et les vents dominants venant de l'ouest ne sont arrêtés par rien de plus haut. Donc c'est vrai que ça avait été relativement bien choisi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous disiez, ça sera très, c'est déjà retenu dans le schéma éolien régional, et il va se créer très certainement une zone de développement éolien dans cette plaine. Bon, voilà. Donc le projet était au départ de 8 éoliennes sur une seule ligne, et puis rapidement la municipalité a accepté, et nous alors la population locale, vraiment de notre village, était globalement, mais très très majoritairement pour. On a eu très très peu de contestations par rapport à ce projet, sur la commune, et même sur des communes alentour. Et donc le projet a été modifié, on est revenu à 6 éoliennes sur 2 lignes, à cause, mais c'est bien, il faut que ça existe, de l'étude d'impact, parce que de 300 mètres de route nationale à 3 km de nos villages, 2 éoliennes, il y a un problème de covisibilité entre deux éoliennes et notre église, qui est par ailleurs classée, donc le projet a été réduit à 6 éoliennes, après tout un tas de procédures tout à fait nécessaires. D'ailleurs, c'est un vrai parcours du combattant. Hein. Et donc, le permis de construire a été accepté en 2008. Mais j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est la première partie. Alors, la deuxième question, alors les avantages. Alors, pour des petites communes, les élus de communes comme les nôtres, sont la première chose, c'est les retombées financières possibles. C'est évident, il ne faut pas se le cacher. Nous, il avait été promis au départ, entre 80 000 et 100 000 euros par an de retombées au niveau de la taxe professionnelle. Bon, alors, aujourd'hui, c'est un autre système. Si notre parc éolien voyait le jour, on y reviendra un peu. On aurait entre 40 et 50 000 euros, sachant que la communauté de communes toucherait plus aujourd'hui que qu'hier. Voilà. Donc, mais si c'est l'aspect financier qui fait que les élus, certains élus, acceptent de soutenir le projet. Moi, je pense que de plus en plus, l'intérêt général rentre en ligne de compte. Et je ne vais pas faire un discours sur l'énergie et tout ça, mais enfin, en trois phrases, on arrive quand même au bout, bientôt, c'est discuté dans combien de temps, des énergies fossiles, qui sont en plus polluantes. Et donc, il faut absolument développer les économies d'énergie et l'efficacité énergétique. Et par ailleurs, développer un mix énergétique, c'est-à-dire, et dans le mix énergétique où il y a beaucoup d'énergie renouvelable, incontestablement, les éoliennes en font partie. Ça fait partie d'un ensemble, c'est-à-dire qu'il n'est pas question, j'ai bien entendu, et on est tout à fait d'accord, d'en construire partout et d'en mettre partout et n'importe comment. Mais ce n'est pas le cas. Voilà. Donc ça, c'est peut-être pour la deuxième question. Je dis que je ne vais pas être long, alors il ne faut pas l'être. Et j'avais quand même pris quelques notes pour la troisième, c'était... Pourquoi le projet n'a pas abouti, oui. Et pourtant, il y a eu beaucoup de concertations, il y a eu beaucoup de réunions, il y a eu beaucoup d'articles dans les journaux, il y a eu beaucoup de... Et lors de l'enquête publique, où il y a eu une centaine à peu près de personnes qui sont venues écrire dans le grand cahier, et il y avait, pour notre commune, cinq personnes qui sont venues écrire comme quoi elles n'étaient pas d'accord pour ce projet. Donc, mais il s'est quand même constitué, et c'est normal, on est dans un état de droit, des associations contre le projet. Deux associations, dont une dont le siège était à 10 ou 12 km de notre projet, pour toujours s'interroger, éventuellement on pourra y revenir. Et puis deux associations, une... qui était chapeauté par l'ex-fédération qui s'appelait Vent de Colère, on a changé de nom aujourd'hui, la colère étant peut-être pas bonne conseillère, ils ont peut-être changé de nom. C'est la Fédération du Développement Durable, quelque chose comme ça. Bon, enfin bref. Et donc, relayé par des locaux. Et donc, au moment où le permis de construire a été attribué, c'est-à-dire en 2008, c'est-à-dire, vous voyez, hein, 5 ans après le début des premières démarches, au bout de 2 mois, ces associations déposaient un recours en annulation devant le tribunal administratif de Rouen. La procédure a duré 1 an et demi, peut-être, enfin 1 mois près. Les associations ont été déboutées, c'est-à-dire que le permis de construire a été maintenu. Procédure suivante, les associations et la SCI du château de Tourny, voilà, il y a 2 associations, une SCI, la SCI du château de Tourny. Donc, on fait appel, et donc à la cour d'appel du tribunal administratif de Douai, qui vient d'annuler le permis de construire de notre projet éolien. Voilà. Alors, sur 2 points de forme, donc il est possible, enfin moi je ne suis pas avocat, mais d'après les avocats de la société énergétique, avec qui on a travaillé, oui, les avocats pensent que c'est 2 points vraiment de forme et qu'il est possible que ce soit récupérable. La société, plus les élus, on a décidé de continuer.
Alors maintenant, je vais poser des questions à Corinne Bourdon et Jean-Paul Bourdon, donc qui sont membres de Liaison Environnement. Alors, comment en êtes-vous venu à vous intéresser à l'éolien? Quels sont les principaux griefs, selon vous, de l'usage de ce type d'énergie, de l'installation des parcs éoliens et de leurs impacts? 3e question. Selon vous, quels sont les écueils des dernières orientations politiques et dispositions législatives? Et 4e point, quelle est votre position par rapport aux installations éoliennes individuelles? On peut aussi garder ça pour la fin, pour le débat. Voilà, merci.
Donc, l'intérêt de l'éolien, c'est de lutter contre les émissions de CO2. Donc, en France, on produit 364 millions de tonnes de CO2 par an, et essentiellement, d'abord à cause du transport routier, du résidentiel tertiaire, donc les habitations, l'industrie, et la production d'électricité ne représente que 8% de la production de CO2. Donc, on arrive à 28 millions de tonnes de CO2 dont la production d'électricité est responsable. Or, l'éolien, actuellement, avec un développement d'environ 6000 MW en France, il n'arrive tout juste à faire 2% de la production électrique française. Donc, il a réussi à éviter 500 000 de tonnes de CO2. Le problème, c'est le coût. Si le but, c'est d'éviter le CO2, il faut regarder à quel coût et si c'est le meilleur moyen. On a une étude de la Commission de régulation de l'énergie qui a essayé d'évaluer justement ce rapport, on pourrait dire ce rapport qualité-prix. Alors, il s'agit de l'éolien, la tonne de CO2 évitée coûte à l'État, à la communauté, entre 230 et 280 euros et pour les éoliennes terrestres. La tonne, oui. 280 euros la tonne pour l'éolien terrestre. Pour l'éolien en mer, on monte à 490 euros la tonne. Si on prend les pompes à chaleur géothermales, ça ne revient qu'à 97 euros la tonne. Les chaudières à condensation, 31 euros à la tonne. Et si on agit surtout sur l'isolation thermique des maisons, des parois opaques, des murs. La tonne de CO2 évitée revient à 2 euros. Alors, comment on se retrouve dans cette situation d'avoir un développement de l'éolien, alors que, d'après les calculs de la Commission de régulation de l'énergie, c'est vraiment pas le moyen le plus efficace, le moins coûteux? Tout part de l'Allemagne, parce que le modèle, c'est l'Allemagne. Et le modèle de la politique éolienne française, c'est l'Allemagne, où on a prévu à peu près... Monsieur Cotenceau disait, rappelait que le programme éolien français est de 25 000 MW. Actuellement, on a en Allemagne 27 000 MW éoliens installés. Et c'est donc le plus grand parc éolien d'Europe, avec les autres étant les plus grands, le Danemark, le Danois et l'Espagnol. Et avec ces 27 000 MW installés, qu'est-ce qu'arrive à faire l'Allemagne? Elle produit seulement 7% de son électricité. Hein. Et on se rappelle bien qu'on est uniquement dans la production d'électricité, on ne parle pas de toutes les autres énergies. Et le beau résultat de tout ça, c'est que l'Allemagne est le plus grand émetteur de gaz à effet de serre d'Europe. Bon, parce qu'elle produit essentiellement son électricité par des centrales à charbon, à gaz et à lignite. Alors l'Allemagne est dans une situation très spéciale parce qu'en plus elle a décidé d'arrêter 7 réacteurs nucléaires, comme vous savez. Et depuis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle importe de l'électricité française et essentiellement de l'électricité nucléaire. La question que nous posons là-dessus, c'est pourquoi ne tire-t-on pas en France les leçons de ce qui s'est passé en Allemagne, l'expérimentation grandeur nature, alors qu'on se lance dans un projet, une politique qui est à peu près équivalente en dimension et en méthode, je dirais.
Pour ce qui est des nuisances, elles ont déjà été évoquées. On pourrait généraliser la chose. Alors les nuisances, on commence à en rendre compte. C'est assez simple. D'abord, il y a des arrêtés préfectoraux qui interdisent aux machines de fonctionner quand elles font du bruit, ce qui est quand même une certaine preuve qu'elles font du bruit. Ça se passe à Caen, si vous voulez, dans le Finistère, c'est interdit la nuit et aussi le jour dès que les nuisances sont au maximum. Alors ça, je ne sais pas comment c'est calculé. À Plouvien, dans le Finistère, c'est aussi la même chose. À Pont-Melvez, elles sont arrêtées aussi la nuit pour la même raison, toujours par arrêté préfectoral, et à Saint-Tourneau, à Beaubriac, dans les Côtes d'Armor, là aussi. Les autres sources de renseignements sur les nuisances, ce sont les témoignages des riverains. Alors là, il y a des témoignages absolument extraordinaires, dont vous avez certainement eu connaissance par la presse, en particulier M. et Mme Nourry, qui sont à Saint-Servant-sur-Oust, qui, eux, sont à peu près à plus d'un kilomètre d'une centrale de 6 éoliennes, et qui ont été victimes d'un bruit sourd qui provient à la fois de l'air et du sol ou de je ne sais quoi, qu'ils ont failli devenir fous. Ils ont appelé le maire de leur commune pour dire, vers 19h, 19h-20h, pour dire « Venez voir ce qui se passe ». Le maire est entré dans la maison, il y avait la télé, on ne pouvait plus entendre la télé, a dit le maire. Et il a fait un témoignage écrit là-dessus. Moralité, le promoteur a reconnu qu'il y avait un petit problème et il arrête de lui-même les machines la nuit. Bon, mais le problème reste entier quand même, parce que dans le jour, ça continue. Alors, vous avez d'autres cas. Vous avez Madame Nicolas à Fressenay-la-Tour, en Haute-Loire, qui, elle, est à 420 mètres d'une machine, et qui dit, on dirait parfois comme un bombardement au-dessus de nos têtes. Bon, c'est elle qui le dit, je veux dire, elle peut inventer ça, évidemment. Mais en plus, elle ne s'est pas aperçue qu'elle avait une parcelle constructive à 300 mètres de l'éolienne la plus proche, qui, évidemment, maintenant, ne l'est plus. Donc, c'est une perte sèche. Il y a aussi Mme Marché à Ali, en Haute-Loire. Alors Ali, c'est le cas peut-être le plus dramatique, parce que c'est un cas ancien, là où tout le monde déguste, même ceux qui étaient pour. Et là, une agricultrice qui habite à 320 mètres d'une machine dit « Bon, ben nous, on est obligé de se barrer des fois la nuit pour dormir, parce que c'est insupportable. » Alors, dans les Côtes d'Armor aussi, à Saint-Nicolas-du-Pelem, on a le même problème, des maisons situées à 600 mètres de machine. Certains jours, on se croirait dans une gare de triage, dit un monsieur qui a travaillé à la SNCF. Bon, qui sait de quoi il parle. En plus, il a fait évaluer le prix de sa maison et il s'est aperçu qu'elle avait perdu 30% de sa valeur. Bon, évidemment, elle est invendable. Oh, il y en a d'autres. Alors, il y a aussi le cas belge qui est bien connu, le cas belge à côté de Bâche, à Estine, 6 éoliennes géantes, 198 mètres de haut. Alors là, c'est pareil, il a fallu les brider, les personnes ne supportaient plus. On a des constats d'huissiers. Alors là, on se rapproche de nous. Dans le Calvados, à Orbec, c'est tout près d'ici, à Family. Donc ceux qui souffrent de la machine, on fait venir un huissier qui a constaté ceci. Placé sur la terrasse de la maison ou en quelque endroit du jardin, se fait entendre un bruit de souffle grave, épais, enveloppant, rythmé, continu, prenant parfois l'apparence d'un long fouettement de l'air à intervalles réguliers. Alors ceux qui ont vécu la chose, comme M. Jeanne, peut-être se reconnaissent dans cette description qui est absolument précise. Constat d'huissier, huissier d'Orbeck, le 23 mai 2011. Et puis le cas le plus dramatique qui se passe dans la Manche, alors ça c'est le cas le plus dramatique de France, c'est M. et Mme Dupont, 320 mètres d'une machine, ils sont quasiment, ils ne supportent plus, la maison est isolée, le son passe par le sol apparemment, autant que par l'air, et ils ne peuvent plus vivre là, évidemment la maison est aussi invendable. Monsieur Dupont a lancé une plainte contre le promoteur qui lui aussi se défend avec un avocat qui est vice-président du syndicat du lobby éolien. C'est sympathique. Voilà pour les nuisances.
D'après les témoignages qu'on a, le rapport de la DAS de Haute-Loire, le rapport de l'AFSET, c'est-à-dire l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, de l'environnement et du travail, la charte éolienne de Charente-Maritime et beaucoup d'autres observations sur le terrain, 500 mètres, étant donné la hauteur des éoliennes maintenant, c'est pas assez. Parce que ça a été prévu 500 mètres quand les éoliennes faisaient 50 mètres. Maintenant, elles font 100 mètres de mât, 50 mètres de pales, et en Belgique, elles font 200 mètres.
Maintenant, on vous invite à discuter en petit groupe, sachant qu'on ne va pas prendre tellement de temps, parce que voilà, on va prendre 10 minutes au maximum. Voilà, pour que vous parliez entre vous et préparer des questions surtout. Voilà, merci.
Ben oui, moi aussi.
Nous, c'est la démarche économique qui nous a franchement gênés.
Parce qu'on le connaît.
Je veux dire, c'est pas normal. Quoi. C'est hyper
compliqué.
Donc on va organiser des zones en fonction des gens qui veulent se prononcer plus pour ou contre.
Je vous rappelle à l'ordre. Nous allons reprendre les débats.
Oui.
Bonsoir. Je suis étudiante en géographie à l'université de Caen. J'avais une question, je pense que ça s'adresse plutôt au monsieur de la DREAL. C'était pour savoir si dans les études d'impact, quand il y a une installation d'éoliennes, la nature des sols et des sous-sols était prise en compte justement pour les impacts quant à la diffusion des ondes, du bruit.
Alors au niveau d'une étude d'impact, en fait, que doit faire l'industriel ? Il lui appartient d'estimer quels sont tous les impacts possibles que peut avoir son installation à l'état brut, c'est-à-dire sans qu'on y mette des moyens qui permettent de limiter ces impacts. Donc bien évidemment, là, on voit bien qu'il y a un impact potentiel. Donc l'industriel a le devoir de traiter cet aspect dans son étude d'impact. Ce qu'il faut bien voir, c'est pour ça que la réglementation a été renforcée. Donc jusqu'au 31 décembre 2011, par rapport aux installations, il n'y avait qu'une législation qui s'appliquait, qui était le Code de l'urbanisme. Alors il y avait une étude d'impact, mais qui n'était pas dans cet esprit-là, hein, puisque ce que je vous relate relève typiquement de la législation des installations classées. Donc c'est pour ça que vous avez eu un renforcement de la législation, avec aujourd'hui, donc intégré dans la nomenclature des installations classées, les parcs éoliens. Et à partir du moment où vous rentrez dans ce type de législation, hein, qui, pour vous préciser ce qu'elle couvre, elle couvre toutes les installations industrielles, quelles qu'elles soient, hein, quels que soient les risques, quelles que soient les nuisances. Donc là, il y a le devoir de tout examiner, hein, de tout étudier. Donc, les effets seront très nettement perceptibles pour les nouveaux projets, hein, puisque en fait c'est applicable depuis le 1er janvier.
Donc Patricia Houry de l'ARDES, Association régionale pour le développement de l'économie solidaire. Donc juste par rapport à ce que vous disiez, c'est l'industriel qui fournit l'étude d'impact, mais du coup elle est confrontée, on pourrait dire, c'est l'industriel. Donc elle est confrontée à qui a un regard sur cette étude d'impact et qui peut conseiller l'élu à savoir si elle est bien ou si elle n'est pas bien.
Alors, rappelez-vous, hein, donc il y a deux stades. Il y a les zones de développement de l'éolien, où là, le fait de décider d'accueillir des installations éoliennes relève du choix de la collectivité, c'est-à-dire la création d'une zone de développement d'éolien, donc le dossier est sollicité par la commune ou le groupement de communes. Ensuite, la commune, je dirais, n'a plus forcément un rôle à jouer. Ensuite, il y a un industriel qui, par rapport à l'existence, hein, donc ça c'est le jeu normal, hein, mais qui n'est pas forcément pratiqué, hein, parce que des fois il anticipe la création de la ZDE, mais qui normalement devrait regarder, là il y a des ZDE, donc je peux implanter des éoliennes, prend contact avec la commune, évidemment présente son projet, etc. Mais le dossier qui est construit est complètement de la responsabilité de l'industriel. Mais ensuite, vous avez une procédure d'instruction qui est très lourde. C'est-à-dire qu'il fait bien évidemment une étude d'impact, mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'avant, l'étude d'impact est soumise à l'avis de l'autorité environnementale qui regarde si l'étude d'impact a été faite pour prendre en compte tous les aspects, tous les impacts, toutes les spécificités locales qui permettent de bien maîtriser l'impact des installations et si les études qui ont été faites permettront de répondre aux inquiétudes qu'on est censé pouvoir avoir par rapport aux caractéristiques locales. Donc ça, c'est l'avis de l'autorité environnementale. Ensuite, vous avez, et en parallèle, donc une procédure d'instruction qui est faite, en l'occurrence, par l'ADREAL. Hein, donc ce sont des ingénieurs qui font l'étude du dossier. Mais parallèlement, donc, vous avez une enquête publique, hein, qui permet donc aussi à la population de s'exprimer. Vous avez la consultation d'un certain nombre de services de l'État ou d'organismes qui protègent des intérêts généraux. Vous avez également une consultation donc, des communes. Donc vous voyez qu'il y a un ensemble d'éléments qui fait que logiquement, sachant que aussi le dossier est présenté en commission des sites. Hein, donc vous voyez qu'il y a un certain nombre d'étapes qui doivent être franchies pour au final qu'il y ait un rapport qui permette de dire il convient ou pas d'accorder la demande. Hein, donc vous voyez, il y a quand même des étapes nombreuses, c'est compliqué, c'est quasiment un an d'instruction.
Alors, dans ces cas-là, comment se fait-il qu'on se retrouve avec des situations individuelles, pas par rapport à l'intérêt général, mais des situations individuelles décrites par monsieur et madame Bourdon?
Alors,
c'est antérieur, je pense.
Alors, il y a peut-être des situations qui sont antérieures, parce que je m'étonne qu'il y ait quand même des éoliennes qui soient à moins de 500 mètres des habitations. Ça me paraît quand même extrêmement surprenant. J'en doute. Par contre, ce que je note au travers de ce qui a été dit, c'est quand même la réaction extrêmement positive de l'État. Hein, autant se faire un petit peu plaisir. C'est-à-dire que vous voyez bien qu'il y a des non-conformités, notamment par rapport au bruit. C'est-à-dire que les niveaux d'émergence ont été dépassés. Et là, l'État a joué son rôle de police, puisque les installations sont arrêtées, soit de nuit ou de jour, et je suppose qu'il doit y avoir aussi derrière des arrêtés de mise en demeure qui demandent de modifier les machines. Donc, je pense que tout cela est quand même rassurant. Hein. Ça montre qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, sachant que ça s'applique à toutes les installations. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, de cas particulier des éoliennes. Toute installation de nature industrielle qui génère des nuisances, qui ne respectent pas les dispositions de l'arrêté préfectoral qui la réglemente, est soumis à une action de police et l'État engage les mesures qui s'imposent. Hein. Donc ça, c'est systématique.
Il faut dire aussi peut-être que bon, les études de l'ADREAL sont particulièrement remarquables en Basse-Normandie et que vous pouvez les consulter sur Internet, ce que M. Potenceau s'appelle d'ailleurs l'avis de l'autorité environnementale. C'est vachement bien fait, hein, si on peut parler comme ça. Et vous pouvez les consulter donc très facilement. L'ADREAL en Basse-Normandie fait un boulot remarquable. faut pas, ça c'est certain. Et il n'y a pas que, mais les services de l'État ici font un boulot remarquable. Le fait qu'il y ait des éoliennes près de certaines personnes à moins de 500 mètres, c'est avant la loi des 500 mètres. C'est bien avant, c'est 2004 pour les Dupont à Saint-Pierre-d'Arthéglise, c'est 2004. Et ça s'est passé, c'est la commune d'à côté qui a voulu ces machines, mais lui, il est à la frontière, il s'est retrouvé en face. Et il a beau réclamer et demander quelque chose, évidemment, il a reçu l'avocat de la partie adverse. Bon, le point faible peut-être des études d'impact, c'est quand même, il est noté par le dernier rapport du Conseil général de l'environnement et du développement durable, qui dépend du ministère de l'écologie, où tous les services de l'État ont dit quand même, les études d'impact, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Il s'est quand même très vite balayé parfois, c'est parfois lamentable. On en a, parce que nous, notre spécialité, c'est de faire des contre-études d'impact. Parfois, on tombe des nues. Je veux dire, il y a tellement de stupidité là-dedans que c'est une honte. C'est une honte de voir ça. On ne va pas citer les promoteurs pour leur faire de les pires de tous. Mais...
Oui, mais je peux répondre par rapport à ça. Parce que, aujourd'hui, hein, avec l'avis de l'autorité environnementale, on a quand même gagné énormément en qualité au niveau de ces études. Par ailleurs, aussi ce qu'il faut savoir, c'est qu'on laisse aussi les industriels à leur responsabilité. Pourquoi ? Parce que si on faisait en sorte que leur dossier soit excellent, on n'aurait pas l'occasion de refuser. Donc vous en arriveriez à la conclusion qu'on autorise tout. Donc vous voyez quelle est aussi notre stratégie, parce que ça a été, je me souviens, dit lors d'un... comité à l'époque départemental d'hygiène de Bretagne, hein, ça a été relaté par les médias, et en fait c'est le piège, c'est-à-dire que un travail qui est trop abouti en amont avec une implication trop grande des services de l'État fait qu'ensuite on ne peut pas refuser les demandes. Donc il faut qu'il y ait toujours des dossiers qui ne soient pas forcément merveilleux, mais qui permettent de montrer que ce n'est pas systématique.
Oui, je voudrais ajouter quelque chose, dire quelque chose par rapport aux nuisances. Il m'arrive assez souvent d'aller sur les sites des associations qui luttent contre l'éolien pour faire recours. J'y retrouve souvent, je dirais c'est normal, le même type d'argument et le même type de photos. C'est-à-dire qu'il y a des exemples, évidemment, il y a des exemples, mais c'est souvent avant 2003. Où la règle s'est durcie, et ça continue à se durcir, et c'est bien. Donc c'est souvent avant 2003, donc on a des photos, et on voit les éoliennes qui dominent le village et tout, là il y en a quelques-unes comme ça qui sont reprises. Et des cas personnels que je ne remets pas en cause, que vous avez cités. Mais dans l'autre sens, on pourrait en trouver des centaines aussi. Parce que les machines d'aujourd'hui, elles sont beaucoup plus silencieuses et les conditions d'installation sont beaucoup plus rigoureuses.
Nous, on a eu l'occasion, lors d'enquête publique, de voir les études acoustiques. Donc les études acoustiques consistent à prouver que les éoliennes ne vont pas dépasser ces normes avec des logiciels de simulation. Elles sont faites très légèrement, hein, très rapidement. Elles sont à la limite bâclées.
Oui, je voudrais juste répondre sur les études acoustiques. On a eu un petit peu de soucis chez nous. Simplement, je voudrais dire que la modélisation mathématique, elle n'intervient qu'après une série de mesures faites sur le terrain. Et nous, dans notre étude acoustique, quand vous dites à une étude, on peut faire dire ce qu'on veut, c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire que les mesures qui ont été faites, vous avez des mesures obligatoires de nuit, des mesures obligatoires de jour, ont été faites à des moments où, manifestement, il fallait minorer la mesure, de façon à ce que le calcul, après, amène à ce qu'on voulait. Hein. Moi, je vois celle qu'on a eue, ne mesurera jamais, pas à mon sens, ne peut pas mesurer, l'impact que, globalement, la pale fait sur le mât à chaque fois qu'elle passe. C'est pas possible. C'est
comme un battement.
Voilà, oui. Voilà, exactement. Le battement d'hélico que vous entendez dans tous les films, c'est un peu ça, atténué. C'est ça. C'est exactement ça. Plus lent, évidemment. Mais c'est exactement ça. Sauf si on fait les éoliennes sur les immeubles. Quoi. Alors je voudrais dire simplement pour compléter, parce qu'on a parlé de l'éolien, vous avez parlé tout à l'heure de mixage, de, c'est ça ? Mixé, de mix énergétique. Je dirais que dans notre territoire, et donc Patricia est là et peut en témoigner, on a démarré justement ce mix en faisant la promotion du photovoltaïque de façon à compléter. Et on est bien d'accord aussi, du point de vue taxe carbone, on va attaquer le photovoltaïque. On peut toujours l'attaquer. Il faut essayer de trouver autre chose. À mon sens, du point de vue énergétique, tout pendant qu'on reste inerte, on ne fait qu'avancer l'échéance devant laquelle on se trouvera sans énergie. Ce que j'ai regretté, moi, au début, quand l'éolien est arrivé chez nous, c'était le prix de rachat d'EDF. Vous l'avez justifié tout à l'heure. Mais si seulement on avait accordé 50% de ce qu'on a accordé aux fermes éoliennes en termes de production, sous forme de subventions, d'isolation extérieure, de remplacement de chaudières, etc. Mais on aurait d'abord économisé avant de produire à nouveau. Et ça, c'est ce que je regrette profondément, qu'on pense à produire plus sans économiser. Voilà.
Il y a quand même le problème derrière ces histoires d'éoliennes, de voir quels sont les impacts au niveau du développement local et qui est-ce qui fait des éoliennes, d'où elles viennent, exactement comme pour d'ailleurs des tableaux de photovoltaïque. C'est-à-dire quelque part aujourd'hui, on est encore allé chercher ailleurs ce que l'on pourrait produire aujourd'hui, ou alors même on a peut-être loupé quelque part une marche. Quoi. Alors, je ne sais pas, je voulais avoir votre avis.
Voilà. Chez nous, c'est simple, c'est une société allemande qui a fait l'étude et qui l'a revendu à une société française pour l'exploitation.
Par rapport aux économies d'énergie, hein, parce que ça fait partie aussi de la politique que l'on porte. Hein. Alors c'est vrai que pour le particulier, ce n'est pas forcément très perceptible, mais il y a quand même une politique assez efficace, hein, puisque sur le premier exercice de 3 ans, ça a permis d'économiser 54 TWh, donc je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente, 54 TWh. Donc vous mettez 10 puissance 12, et puis vous avez ce que ça donne. Donc c'est quelque chose de considérable, au travers d'un dispositif qui s'appelle les certificats d'économie d'énergie. Donc en fait, ce dispositif s'impose à un certain nombre d'acteurs, donc qui sont des acteurs obligés, que sont les producteurs d'énergie et tous les vendeurs d'énergie. Donc ça, c'était vrai pour la première période. Donc là, maintenant, on est rentré dans la deuxième phase. Et en fait, toutes les entreprises avaient obligation de réduire ou de contribuer à une économie d'énergie par des actions qu'elles entreprenaient en finançant de l'isolation, du changement de machine, etc. Par exemple, pour vous situer localement, vous aviez LCN, hein, donc LCN qui vend essentiellement des combustibles. Je crois que sur la période des 3 ans, si ma mémoire est bonne, je crois que ça doit être 80 millions de kilowattheures qu'on leur a imposé d'économiser. Donc indirectement, vous avez des gens, parce que derrière, vous avez un système boursier qui est en place, c'est-à-dire que par rapport aux économies qu'ils font, donc ils sollicitent des certificats d'économie d'énergie, donc qui sont inscrits sur un registre national, qui trouve une valeur boursière. Donc sur le premier exercice, compte tenu que en fait 54 TWh, ça a été atteint assez rapidement. Donc la bourse d'échange n'a pas pris corps, mais en fait donc les acteurs obligés, s'ils n'arrivent pas à atteindre l'objectif qu'ils leur aient imposé, ils peuvent acheter sur un marché d'échange des certificats d'économie d'énergie qui a pour valeur maximale 2 centimes du kilowatt, hein, parce que c'est la pénalité qu'ils auraient. Donc c'est comme ça qu'on a une indication du marché boursier. Ce qu'il faut savoir, c'est que les collectivités, un certain nombre de collectivités, se sont engagées dans des travaux pour acquérir des certificats d'économie d'énergie qu'ils ont vendus à des acteurs obligés, notamment en faisant des isolations dans des lycées, par exemple, ou en installant des panneaux voltaïques, etc. Donc vous voyez bien qu'il y a une politique qui existe par rapport aux économies d'énergie. La nouvelle phase là, qui a une durée de 3 ans, l'objectif est plus ambitieux puisqu'on a 90 TWh, vous voyez, et que ça a été élargi encore à d'autres acteurs obligés. Donc il y a une véritable politique d'économie d'énergie. Hein. Donc ça, c'est pas perçu par le citoyen lambda parce qu'il n'y a pas énormément de publicités qui sont faites autour, mais c'est une réalité.
Je pense que pour le citoyen lambda, le plus bel outil de par rapport aux économies d'énergie qu'il peut voir, c'est les OPA, avec donc les opérations programmées d'amélioration de l'habitat que met en œuvre l'ANA. Mais ce qui serait intéressant de voir, c'est de mettre en parallèle le budget alloué à l'ANA tous les ans, en lien avec le budget du coup que perçoit l'éolien.
Concernant le prix, hein, je crois que je vais en choquer plus d'un. Hein. Je crois qu'il faut être complètement conscient que le prix de l'électricité en France n'est pas au niveau où il devrait être. Vous voyez qu'on est en train de vous préparer, ça va augmenter, et vous allez voir, il va y avoir des augmentations significatives, ce qui fait que les énergies renouvelables deviendront compétitives et qu'il n'y aura pas besoin de les subventionner. Donc en fait, aujourd'hui, la politique a été instaurée et lié à la conjoncture française avec un prix du kilowatt qui est extrêmement bas. Si vous comparez dans les autres pays, vous verrez qu'il est nettement supérieur. Et si on voulait amorcer le développement des énergies renouvelables, il fallait bien avoir une politique incitative. Et quel est l'autre moyen que de compenser et de faire en sorte que la production soit rentable ? Hein, mais ça, c'est quelque chose qui va évoluer. Dans les 10 ans, le problème ne se posera plus, hein, dans les 10 ans à venir.
Aujourd'hui, on est dans un moment important où on a des choix à faire en matière de politique énergétique. Aujourd'hui, notre production d'électricité en France, c'est à partir de 75% de notre électricité est d'origine nucléaire. Alors après, aujourd'hui, le débat n'est pas sur le nucléaire, mais on s'aperçoit que c'est un mode de production là qui a un impact important et où, de toute manière, on prend un risque par rapport à ces modes de production-là. Et quand on est convaincu de ça, et c'est ça qui fait que j'ai envie de voir se développer les énergies renouvelables. Alors après, les énergies renouvelables, ça ne veut pas dire les faire n'importe où, n'importe comment. Donc l'éolien, eh bien oui, ça fait partie du mix énergétique. Le photovoltaïque, là aussi, on peut faire des projets qui sont cohérents. On n'est pas obligé d'aller acheter nos panneaux en Chine. Le projet qu'on a sur les communes de Garcelles, on a fait en sorte d'acheter du panneau allemand, puisqu'on a malheureusement en France pas de producteur, ou en tout cas, il y en avait un et il a fermé ses portes suite au moratoire, etc. Enfin, il y a toute une histoire. On est sur permettre aux gens, puisqu'on s'apercevait avec l'histoire des éoliennes à Garcelles, où on s'aperçoit que les acteurs locaux sont un peu dépossédés de ces projets-là. Nous, sur la communauté de communes Plaine Sud de Caen, on est en train de développer un projet collectif sur des bâtiments publics, et donc où on invite la population, les habitants, à investir dans des installations d'énergie renouvelable, donc là du photovoltaïque, aux côtés de la collectivité, et faire en sorte justement que les retombées, donc déjà permettre aux habitants, aux citoyens de se réapproprier toutes ces questions. Interrogez-vous sur comment, d'où vous allumez la lumière, d'où ça vient, les impacts, etc. C'est aussi justement en prenant conscience de d'où ça vient, etc., c'est s'interroger sur son mode de production. Donc c'est amener les écoles où on va installer des panneaux, eh bien tiens au fait, mais quel est mon niveau de consommation, est-ce que je peux avoir un impact? On ne pourra jamais avoir zéro impact, mais je préfère avoir une éolienne qu'une centrale nucléaire à côté de chez moi. Pour finir, en Bretagne, il y a un parc éolien qui est mené que par des citoyens, qui est 100% citoyen, et c'est justement un moyen pour que les habitants, les riverains, vont aller vraiment regarder quelles machines, où elles vont être implantées, etc.
Donc
voilà, ça peut être aussi une autre manière de faire.
problème ne se pose pas comme ça. On aimerait bien pouvoir remplacer le nucléaire. Quand on voit que pour remplacer un des réacteurs de Flamanville, il y en a deux actuellement, je ne parle pas de l'EPR, je parle de ceux qui fonctionnent actuellement, un réacteur fait 1300 MW. Bon. Le nucléaire a un taux de rendement de 80%. Les éoliennes, par rapport à leur capacité annoncée, produisent 25%. Ce sont les chiffres de RTE. Pour remplacer un réacteur de Flamanville, il faut 2000 éoliennes. Il y a 58 réacteurs en France. Bon. Aux États-Unis, ils ont des déserts, ils ont des zones non habitées où ils peuvent mettre des centaines d'éoliennes sans que ça détruise le cadre de vie des habitants. En Europe, pratiquement, il n'y a pas d'endroit comme ça dans toute l'Europe. On peut réfléchir à ça aussi à partir du cas de l'Allemagne. C'est quand même une démonstration en grandeur réelle, puisque les Verts allemands, c'est eux qui ont lancé cette idée. Qui ont cherché à remplacer le nucléaire. Bon. Puisque le grand objectif d'origine des Verts allemands, déjà dans les années 70, même peut-être avant, c'était la lutte contre le nucléaire. On rêvait de remplacer le nucléaire, alors on proposait l'éolien, le solaire. Il n'y avait pas encore le photovoltaïque. C'était chauffer l'eau chaude. Il y avait plein de choses. Alors l'éolien, à ce moment-là, c'était les petites éoliennes. On rêvait des petites éoliennes individuelles qui permettent de produire son électricité presque en autarcie. Et on se retrouve, 30 ans après, avec des éoliennes géantes. Et c'est plus du tout, d'ailleurs, décentralisé, parce que des éoliennes qui vont être installées en Normandie par un industriel allemand vont être pilotés même depuis l'Allemagne ou depuis Lille ou depuis l'autre bout de la France. L'électricité ne peut pas être stockée, donc elle va dans le réseau national. Donc c'est pas du tout de l'autarcie. On croyait que c'était absolument pas polluant, qu'il n'y avait aucun déchet. Bon, il y a effectivement la fabrication et après le démantèlement n'est pas résolu pour les éoliennes. Bon, même si c'est beaucoup moins dangereux que le nucléaire, mais on se retrouve avec quelque chose qui n'a rien à voir avec cette utopie. Donc les Verts allemands arrivant au pouvoir ont réussi à essayer leur idée. Là, avec cette puissance industrielle derrière, qui change totalement la nature du projet. On est avec des monstres de 120 mètres de haut. Bon, le CHU, il fait 93 mètres de haut. Nos églises de campagne, elles font 35 mètres quand elles sont très haut, quand le clocher est très pointu et très haut. Hein. Les plus vieux arbres par ici font 20 ou 30 mètres. C'est le paradoxe de la situation. Donc, ils essayent. En Allemagne, ils le font. Ils ont installé 27 000 mégawatts d'éoliennes. Bon, surtout l'Allemagne de l'Est. Mais c'est couvert. Ils ne savent plus où les en mettre. Ils ne peuvent plus en ajouter. Donc, ils peuvent en ajouter qu'en mer. La population ne le supporte plus. Au Danemark, c'est pareil. Il y en a tellement, la population ne supporte plus qu'on en mette une seule. C'est la ministre de l'écologie danoise qui l'a dit aux parlementaires français qui sont allés la voir quand ils ont fait une enquête sur la question, bon, l'an dernier.
Moi, je ne connais pas d'écologiste sérieux ou de personne en général sérieux qui pense ou qui dise que l'éolien va remplacer le nucléaire. Vous n'en connaissez pas. Le discours que vous venez de faire, là, ça repose là-dessus. Mais non, c'est pas du tout sérieux. Le développement de l'éolien n'est pas inutile, parce que regardez les projets qui sont prévus offshore, au large de la côte ici, et sans doute au large de la côte de Bretagne. C'est, allons vite, la puissance de 6 réacteurs nucléaires. C'est pas négligeable. Et en Angleterre, le projet qui est prévu, il est 6 fois plus important que celui qui est prévu au large des côtes, là. Je veux dire par là qu'on ne peut pas, évidemment, remplacer le nucléaire que par les éoliennes, mais on ne va pas revenir sur le mix et sur les économies d'énergie. Je pense que ça, c'est intégré. Mais qu'en même temps, le développement de l'éolien, là où c'est possible, là où il n'y a pas de nuisance véritable, il faut quand même le faire. Alors, je terminerai sur... est-ce que vous avez entendu parler d'une étude par une société qui indépendante qui s'appelle... un cabinet d'études s'appelle les 7 vents du Cotentin. Un scénario qui tente à prouver qu'on pourrait sortir du nucléaire. Pas seulement des éoliennes. Pas demain matin, mais là, on peut imaginer, pas très éloigné. Alors, des ingénieurs EDF se sont penchés sur le projet.
et n'ont rien trouvé à y redire.
Est-ce que vous pensez vraiment que 7% d'énergie éolienne produite égale 7% d'énergie nucléaire en moins ? Moi, je crois que ce sera 7% d'énergie consommée en plus, tout simplement. Moi, je pense qu'il faut essayer de promouvoir la baisse de consommation, comme disait le collègue. Mais la consommation, vous savez que l'Agence internationale de l'énergie a produit d'ici 2030, c'est-à-dire à peine 20 ans, une augmentation des demandes énergétiques de 55%. On va toujours avoir le même problème. On va avoir chaud, mais en plus de ça, il va falloir faire du slalom entre les éoliennes. Moi, j'ai la vie, ça ne me plaît plus comme ça, je veux dire. On aura pas résolu le problème du réchauffement climatique, parce que l'urgence, elle est quand même là-dessus. Hein, le Grenelle s'est fait un petit peu là-dessus, quand même. Bon, quant au paysage, quand même, c'est vachement important.
Je vais apporter quelques précisions, là. Parce que, j'entends des belles choses, hein, mais je pense qu'il y a quand même aussi un certain niveau de méconnaissance hein, par rapport aux problèmes qui se poseraient à nous avec certaines visions un peu idylliques. On a besoin d'une électricité de qualité. Allez dans certains pays, vous verrez qu'il y a des coupures, vous verrez qu'il y a des baisses de tension, qu'il y a des changements de fréquence, etc. Et à partir de là, il y a un problème fondamental au niveau de la qualité de la production électrique, entre autres en Allemagne. Vous avez des industriels qui commencent à râler parce qu'ils ont leur procédé industriel qui commence à dysfonctionner avec des pertes de production. L'éolien a un inconvénient que je n'ai pas entendu, c'est que la production d'électricité n'est absolument pas prédictible. Hein. Donc, quand on a intégré ça, on voit bien qu'à partir du moment où l'on sait également que pour faire fonctionner le réseau de transport d'électricité, ça vous l'avez peut-être perçu par rapport à des événements qui ont été largement médiatisés, notamment qui sont intervenus en Californie avec des blackouts, dès que vous n'avez pas un équilibre entre la production d'électricité et la consommation, hein, c'est comme votre installation à la maison, sachant que c'est beaucoup plus complexe, bah tout saute. Tout saute, hein. Et quand tout le réseau saute, c'est les blackouts, hein, comme on a failli en connaître, même en France. Et chaque jour, vous avez donc des équipes de RTE, vous avez plus d'une centaine d'ingénieurs qui travaillent aujourd'hui à savoir quel va être demain le besoin en électricité. On regarde les paramètres météo, les productions, le jour, on est quel jour, il y a quelle fête religieuse, etc. Vous voyez, il y a tous ces éléments qui permettent d'ajuster la production avec une très faible marge et qui fait que le réseau va fonctionner. Et vous voyez bien qu'on ne peut pas compter sur l'éolien. Il n'y a pas de vent, si on a besoin d'électricité, ça ne va pas tourner. Pour pallier à des circonstances qui sont exceptionnelles, on n'a pas non plus de souplesse au niveau du nucléaire. Au niveau du nucléaire, on a un avantage, c'est la régularité, etc. Donc, qu'est-ce qui offre une souplesse qui permet de répondre à des pics de demande ou à des imprévus par rapport à des incidents sur des lignes? C'est l'hydraulique, les barrages, où là, instantanément, on est capable de libérer 5000 MW, et ce sont aussi les centrales thermiques. Donc vous voyez bien l'intérêt du mix énergétique, hein, c'est de pouvoir gérer aujourd'hui une qualité d'électricité que notre civilisation moderne a besoin, que nos pays modernes et évolués ont besoin, et là, on sera obligé d'en passer par là, sinon il faudra renoncer à une certaine qualité de vie qu'on a et supporter un certain nombre d'aléas. Alors, je voudrais terminer aussi par une note d'espoir par rapport à l'éolien en mer. Hein. Donc, l'avantage de l'éolien en mer, c'est 50% de rendement, c'est quand même le double du terrestre, sachant que le terrestre, c'est plutôt 20 que 25 entre nous. Donc, vous voyez, il n'y a pas que des inconvénients pour l'éolien terrestre. Ceci étant, c'est nécessaire. Mais quand vous voyez les inconvénients, soyez rassurés, ça ne va pas se développer outre mesure, hein, et il n'y aura pas une proportion supérieure à 30% de la production qui pourra être de cette origine, sinon on serait confronté à de gros problèmes. Donc je reviens sur les énergies marines qui peuvent se composer pour la région, parce que c'est un aspect important. Vous avez l'éolien offshore, donc là avec un parc qui va se développer d'ici quelques années. Et je ne sais pas si vous avez conscience, c'est qu'au large de la base d'Normandie, au niveau du Rat-Blanchard, Rat-Blarfleur, on a l'un des gisements les plus importants au monde au niveau de l'hydrolien. Et là, on a espoir de pouvoir tirer 3 gigawatts. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que par rapport à ces deux types d'énergie marine, où sur un plan industriel, aujourd'hui, il n'y a pas une grosse production industrielle, on espère, en tout cas on fait tout pour aujourd'hui, que la technologie française puisse investir ses créneaux. Donc ça, c'était la petite note d'optimisme par rapport à ce qui a été dit. Il est évident qu'aujourd'hui, au niveau de l'éolien terrestre, on a une domination de l'industrie allemande et personne ne va les contester sur ce terrain-là. Mais au niveau de l'éolien en mer, bah, vous avez peut-être perçu Alstom, et vous allez voir qu'au niveau de l'éolien aussi, les entreprises françaises vont pouvoir se positionner. Donc ça, c'était la note d'optimisme qui s'appelle la croissance verte par rapport aux énergies renouvelables.
Merci. Il y a juste M. Jeanne qui voulait intervenir deux minutes.
C'est juste un petit mot, parce que là, on a parlé de produire de l'énergie, que ce soit de l'éolien, que ce soit du photovoltaïque, que ce soit du nucléaire. Moi, je vais vous dire, on parlait d'échéance. La grosse échéance que je vois, moi, déjà, dans ma commune, donc, c'est-à-dire que ce n'est même pas une échéance, c'est quelque chose qu'on vit tout de suite, c'est l'accès à l'énergie pour tous, qui est en train de diminuer. C'est-à-dire que nous rencontrons dans nos communes, de plus en plus souvent maintenant, des gens qui sont en demande d'aide, tout simplement parce qu'ils n'arrivent plus à se chauffer, ils n'arrivent plus à s'éclairer. Et ça, c'est quelque chose qui est déjà présent, et je ne fais pas trop d'illusions, c'est une note un peu négative, mais on va vers de plus en plus de gens qui n'auront pas accès à l'énergie.
Ben merci, on va s'arrêter là-dessus, sauf qu'on va demander à Vincent Legrand de nous faire une synthèse.
Merci Lucille. Synthèse, le mot est toujours un peu pompeux, on a l'impression qu'il faut conclure et rapporter à quelques lignes un débat qui a été riche. Moi, je m'interrogeais beaucoup à l'entrée de ce débat sur la manière dont il pourrait se passer, et en fait, je n'ai pas les compétences techniques pour faire une synthèse sur tout ce qui a été dit. Néanmoins, ce qui m'a semblé intéressant, c'est de voir ce débat osciller entre de forts moments idéologiques, voire polémique, et puis de fortes retombées de consensus en réalité. Il y a eu des oscillations comme ça dans le débat qui ont été assez intéressantes. D'abord, on est parti très rapidement sur une considération assez idéologique. C'est moins la question de l'éolien qu'une question plus générale de mode de société, puisque en fait, la question de l'éolien s'est très vite drapée de la question de l'économie et du monde économique, et du rapport notamment entre les collectivités locales et un monde économique extrêmement... agressif, on pourrait dire, voire même qui, à certains titres, est capable d'abuser la confiance d'un monde territorial qui, pour le coup, est d'accord et puis, en fait, se rend compte que les choses vont plus vite ou plus loin que ce que l'on escomptait. Et puis, très rapidement, on s'est retrouvé sur une considération assez consensuelle de dire, finalement, l'éolienne, aujourd'hui, n'est plus considérée comme une source de nuisance générale. Il y a finalement peu ou pas de monde qui a considéré qu'aujourd'hui l'éolienne c'était pas bien, c'était moche. Moi je pensais qu'on aurait des hauteurs d'arguments de ce type-ci. Ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que l'éolienne déjà fait partie d'une sorte de considération. Bon, vous êtes arrivé un peu tard et peut-être que votre arrivée anticipée m'aurait permis de faire une conclusion différente. Néanmoins là, pour le coup, c'est l'impression que j'en ai eue à ce moment-là. Et que c'était plutôt une question de source de nuisance particulière. Et qu'avec des mesures de police adaptées, une réglementation dont monsieur nous a fait un rappel, me semble-t-il, tout à fait à la fois synthétique et en même temps, abordable, on pouvait effectivement faire en sorte que des précautions soient prises sur des nuisances particulières et que les seuls écueils qu'il était possible de montrer étaient des écueils qu'on avait atteints parce qu'à une époque, on avait été peut-être moins précautionneux et la réglementation n'existait pas. Donc on a bien eu une tendance à considérer que l'éolien était finalement quelque chose de possible dans une politique énergétique d'ensemble, le fameux mix dont tout le monde parle depuis tout à l'heure, et où là, finalement, sur cette politique énergétique, on avait globalement, me semble-t-il, une forme de consensus dans l'idée de dire que l'énergie était un problème d'économie générale et qu'aujourd'hui, ça devenait, dans notre mode de consommation, un problème particulier. Et la conclusion que vous avez apportée tout à l'heure de l'accès à l'énergie, qui aujourd'hui semble quelque chose de tout à fait évident, va certainement nous amener à considérer que c'est aussi un problème une problématique particulière pour chaque individu. C'est pas simplement l'éolienne qu'on peut mettre dans le jardin qui permet de produire une électricité ou une énergie qui pourrait bénéficier à un individu, mais c'est aussi le fait de savoir si chacun d'entre eux sera susceptible effectivement d'aborder ou d'accéder à cette énergie. Et puis, on est revenu sur un fort moment idéologique, c'est forcément celle du nucléaire, puisque c'est d'abord une question extraordinairement politique, j'étais assez réservé à l'idée d'organiser un débat sur la politique énergétique, puisqu'il y en a beaucoup question aujourd'hui. Et finalement, on est arrivé tardivement, mais cette question-là reste en suspens, et je pense que cette question-là, effectivement, est très marquée idéologiquement, beaucoup plus que l'éolienne, qui semble-t-il, aujourd'hui, à quelques exceptions près, dans la manière d'être un élément qui participe à une politique énergétique, semble être en partie accepté.
Merci beaucoup. Donc je termine par les remerciements. Nous remercions nos intervenants, Philippe Cotenceau, Daniel Mousset, Didier Jeanne, Corinne et Jean-Paul Bourdon, pour leur contribution au débat. Nous remercions également Ronald Minot, l'ingénieur du son, et Anne Lacheret, qui est notre infographiste qui fait les affiches et les flyers. Le patron du bistrot du Palais et la serveuse, pour leur patience, parce qu'on est en retard ce soir. Le public pour sa participation active. Et enfin, je vous invite au prochain débat qui aura lieu le 15 mars 2012 sur la question de la qualité architecturale et urbaine que nous souhaiterions interroger. Voilà, c'est quoi la qualité architecturale? On n'a pas trouvé le titre encore. Si certains ont des idées, on est preneuses et preneurs. Voilà, bonne soirée, merci.
Ah oui.